Economica, Anne Isla.
Jacques Lavergne.
Bonjour.
Bonjour.
Economica, ou comment rendre accessible à tous les faits et les idées économiques.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie, donc le plaisir de vous retrouver certainement une dernière fois cette année pour parler économie. Après on va oublier, on va faire la fête, on va boire, on va manger, on va s'étourdir et on se retrouvera bien sûr en janvier avec Anne pour une autre édition d'Economica. Pour aujourd'hui, tiens, on commence par notre citation habituelle, ouvrez les guillemets, « Toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot ». La connerie est courante, le complot demande un esprit rare. Et c'est d'un monsieur qui nous a quittés, mais que l'on a bien connu et parfois apprécié, Michel Rocard. Anne, ça vous inspire ?
Oui, ça m'inspire, oui, parce que je ne comprends pas bien, ou alors j'ai peur de comprendre trop bien ce qui est sous-entendu dans cette citation.
Je pense que vous comprenez bien, Anne.
Parce qu'on est dans une société où la presse et les principaux médias sont détenus par quelques individus. Il n'y a plus ou quasiment plus de pluralité dans les médias. Les nombreux mouvements de journalistes de ces derniers jours le montrent. Le débat démocratique est fortement mis à mal. Et en même temps, on constate que toute personne qui aurait l'outrecuidance de poser une question en ce moment, bon, en ce moment, c'est sur la situation sanitaire, se voit taxée de complotiste. Et donc, si je suis cette citation d'imbécile... Pourtant, il me semble que la démocratie serait sortie grandie de cette expérience extrêmement difficile que nous traversons tous si nous nous étions permis de mettre certaines questions au centre du débat social. Et l'urgence et la mise en place de mesures urgentes n'empêchent pas le débat. Par exemple, est-ce que l'on est un imbécile lorsque l'on s'interroge sur la balance coût-avantage d'une thérapie qui n'a pas encore d'autorisation définitive des autorités de santé ? Peut-on débattre des effets à long terme sur les enfants et accepter, après le débat, d'assumer ces effets parce que cela est nécessaire ? Mais en toute connaissance de cause, nous assumons les effets à court et à long terme de cette thérapie parce que nous n'avons pas suffisamment de place dans les hôpitaux. Est-ce que l'on est un imbécile lorsque l'on interroge la politique gouvernementale et celle de l'ARS qui continue à fermer des lits dans les hôpitaux ? Lorsqu'on se demande, à partir du système de brevets, parce que s'ils existent, ces brevets, c'est pour compenser les dépenses en recherche et développement et les risques. Si ces dépenses n'aboutissent pas à une innovation que l'on peut utiliser et vendre. Or, pour le Covid, la recherche a été pour une grande partie publique. Les doses d'injection ARN messager ont été achetées en avance par les États. Et ces mêmes États ont signé des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques pour prendre en charge les effets négatifs s'il y en a des injections. Donc le brevet n'a plus lieu d'être, ou du moins nous pourrions en discuter. Parce que pas de brevet, ça veut dire aussi des injections moins chères, l'ouverture de cette thérapie aux pays les moins riches. À ce sujet, que vaut-il mieux ? On pourrait en discuter aussi, faire une injection d'ARNm aux enfants des pays riches ou utiliser cet argent pour proposer cette thérapie aux adultes, notamment aux adultes fragiles des pays moins riches, etc., etc., etc. Beaucoup de questions juridiques et politiques passionnantes que l'état d'urgence soulève, l'obligation d'injection, la balance sécurité-liberté, nos façons de produire et de consommer qui ne sont pas étrangères à cette pandémie, on pourrait y passer l'émission. Donc, que l'on a une injection du reste d'ARN messager ou non, ce n'est pas la question. Le problème est que le débat démocratique n'existe pas ou plus, et ce n'est pas le cas uniquement pour la politique sanitaire. Donc, il est facile, je trouve, de traiter les personnes d'imbéciles quand on fait tout pour anéantir leur esprit critique. Et il me semble qu'il faut se sentir bien supérieur pour considérer que l'autre, parce qu'il ne pense pas de la même façon, est un imbécile. Pour moi, qui suis chercheuse et enseignante, c'est impossible. Cette supériorité m'étonne, et m'étonne d'autant plus dans la bouche d'un homme politique, qui plus est un homme de gauche. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pour la société des imbéciles ou des moutons? Est-ce que la priorité, ce ne serait pas de développer l'esprit critique pour pouvoir entendre n'importe quel discours et prendre de la distance, plutôt que de faire taire même les complotistes ou les imbéciles? Donc, je m'arrête là. Hein. Ce serait
voilà,
le propre d'une autre émission.
Ou comment, à partir d'une citation un peu sortie de son contexte, on arrive à rebondir pour commenter l'actualité, comme ça vous va bien, merci. Anne-Michel Rocard n'avait pas connu le Covid, et il était, lorsqu'il a prononcé cette phrase, c'était dans un tout autre cadre. Mais ça vous a permis de nous faire part de... Bah, c'était votre petit coup de gueule, hein, faut
voilà.
Bien dire ce qui est, mais il le faut aussi. Alors aujourd'hui, on va parler finances, tout à l'heure avec Anne, mais auparavant, bon, quelques brèves. Moi, j'ai parcouru un peu la presse et puis j'ai retenu quelques petites choses. Baisse du pouvoir d'achat en France au premier semestre 2022, un article du Monde hein, qui nous dit que eh bien, ça tombe mal, alors que le début de la crise due au coronavirus, la politique, vous connaissez, du quoi qu'il en coûte, a permis de sauver le tissu économique d'un désastre redouté et de préserver le pouvoir d'achat des ménages, eh bien, l'inflation pourrait venir assombrir le bilan économique de l'exécutif à quelques mois de l'élection présidentielle, ce qui serait un peu gênant pour monsieur qui a occupé les ondes hier soir. L'INSEE, qui publie mardi 14 décembre sa note de conjoncture pour le quatrième trimestre, prévoit que le pouvoir d'achat, en hausse de 1,8% en 2021, connaîtra une baisse de 0,5% sur la moitié de 2022 en raison de la hausse des prix. Un atterrissage dans la douleur, nous dit Le Monde, alors que ce sujet est hautement sensible. Et de citer Bernard Sananès, le président de l'Institut de sondage ELAB, qui nous dit « c'est l'élément qui comptera le plus dans le vote des Français, c'est bien possible ». Une baisse qui pourrait être d'autant plus mal ressentie qu'elle surviendra dans un contexte de ralentissement de la reprise. La croissance du produit intérieur brut, le fameux PIB français, de 0,5 au quatrième trimestre, comme prévu, atteindra bien 6,7% sur l'ensemble de 2021. Mais en faisant l'hypothèse fragile, précise Le Monde, que les restrictions sanitaires ne se durciront pas davantage, le rebond de l'économie se poursuivra au rythme de 0,4% au premier trimestre 2022 et de 0,5% au deuxième, un tempo qui permet de fixer l'acquis de croissance, ce qui est définitivement emmagasiné, même si l'activité reste à tonne pour le reste de l'année, à 3% à la fin du premier semestre, selon les prévisions de l'INSEE. Ça vous inspire, Anne ?
Oui, ça m'inspire, parce que les prévisions de l'INSEE, qui sont très très intéressantes, il faut aussi les resituer. L'INSEE ne travaille que sur des populations qui ont un logement fixe, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les sans-domicile, les étudiants qui sont en cité universitaire, les personnes âgées en EHPAD, les gens du voyage, etc. C'est-à-dire beaucoup de personnes qui ont déjà des revenus extrêmement faibles, hein, plusieurs centaines de milliers de pauvres. Donc, certes, le pouvoir d'achat va diminuer, mais ça va être encore pire pour les individus les plus pauvres. Quand on regarde un peu ce que disent les ONG, on se rend compte que la précarité alimentaire augmente, ce qui aggrave encore, bien sûr, cette situation. Près de 30% des ménages ne mangent pas pendant une journée entière ou davantage régulièrement. Autre remarque que j'aurais à faire, c'est une baisse du pouvoir d'achat, une hausse des prix, certes, ça va être problématique, ça va certainement peser dans la campagne électorale, mais en même temps, une hausse des prix, une inflation, s'il y a une hausse des salaires, on peut l'atténuer. Il faut aussi regarder par rapport à ce qui va se passer au niveau des salaires.
Deuxième brève, on va lire un peu The Conversation, vous connaissez ça. Hein. Ça y est, la grande démission, big quit, comme on dit en grand breton, arrive en France. La vague de départ volontaire enregistrée aux États-Unis l'été dernier, plus de 4,3 millions de salariés au seul mois d'août, du jamais vu depuis que les statistiques américaines sur les démissions existent. Et aujourd'hui, ben, ça nous rattrape, ça atteint l'hexagone. Et elle semble toucher tous les salariés, les moins qualifiés dans les PME et dans les grands groupes aussi. Les chiffres et les exemples sont sans appel. D'après la Banque de France, 300 000 emplois restent actuellement à pourvoir. Je crois que j'y reviendrai tout à l'heure. Selon Numéum, l'association représentative du secteur du numérique, il manquerait environ 10 000 ingénieurs informatiques en France. La dernière étude de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines évalue à 80% la proportion de ses membres confrontés à des difficultés de regroupement liées à une pénurie de la main-d'œuvre. 80%, c'est quand même pas rien. Or, si la crise sanitaire vient mettre l'accent sur ce phénomène, il n'est pas nouveau et c'est précisément ce qui inquiète les entreprises. En 2018, donc on n'était pas encore au Covid, hein, d'après l'INSEE, 45% des entreprises, tous secteurs confondus, déclaraient faire face à des difficultés de recrutement contre seulement 21% en 2015, donc le phénomène, a priori, a l'air de s'accroître. Cette tendance concernerait tous les secteurs et selon une étude du ministère du Travail, 6 métiers sur 10 étaient ainsi en forte tension de recrutement en 2019 contre 1 sur 4 en 2015, en particulier dans les secteurs de l'aide à domicile, du transport routier, de la production industrielle, de l'hôtellerie et de la restauration. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Anneau nous dit qu'il y a plein de chômeurs, il y a plein de boulot, et alors on ne les rapproche pas, ces chômeurs, de ce travail potentiel ?
Non, on ne les rapproche pas, et puis on peut rajouter à ces secteurs l'éducation et la santé, qui commencent à rencontrer aussi de graves problèmes de recrutement. Alors ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, ça veut bien dire que notre obsession d'adapter l'enseignement aux besoins du marché ne fonctionne pas. On ne peut pas adapter des individus à un marché, même si c'est un marché du travail, comme on adapte des boulons à une machine.
Et pourtant, donc, c'est bien ce qu'on fait, parce qu'on a une éducation nationale qui forme des consommateurs et des producteurs, ne s'occupe pas du reste. Hein, mais voilà.
Après, ça, c'est la première réflexion. La seconde réflexion que qui me vient, c'est le mépris que l'on a en France du travail manuel. Un mépris qui est moins important, voire inexistant, en Allemagne, par exemple, où on rencontre moins de problèmes par rapport à ces secteurs où l'on n'arrive pas à recruter. Et puis c'est la preuve aussi qu'il va falloir trouver donc un nouveau compromis social, un nouveau compromis entre les différentes parties prenantes de la société, parce qu'il y a quelque chose qui coince.
Vous croyez que, c'est vrai qu'on a toujours eu un certain mépris pour les gens qui travaillent de leurs mains, ce qui est une stupidité monumentale, mais l'apprentissage aujourd'hui, on vante quand même bien les mérites de l'apprentissage qui permet de mettre des gens sur ces métiers manuels directement au travail, école, entreprise, et puis au sortir pour la plupart un CDI. C'est peut-être en train un peu de bousculer cette façon de voir les choses.
J'espère que c'est en train de la bousculer parce que c'est complètement ridicule et une société ne peut pas être constituée que d'intello. Il faut d'autres personnes pour pouvoir vivre. J'espère qu'on est sur la bonne voie.
Autre brève, selon le FMI, faut-il croire le FMI, Anne, vous nous le direz, la dette mondiale s'élève à 250% du PIB mondial en 2020, soit plus 28% par rapport à 2019, et c'est du jamais vu depuis 1945. 40% de cette dette provient des États, soit la part la plus élevée depuis le milieu des années 60.
Alors là aussi, j'ai envie de resituer, de remettre tirer les autres fils de ce discours, parce que quand on parle de dette d'État, une dette, certes, c'est des dépenses, mais c'est aussi des recettes. Donc si les dettes des États augmentent, en fin de compte, c'est pas tant parce qu'ils dépensent plus que cela. Sauf, bon, bien sûr, en période de Covid, c'est une autre situation. Mais quand on regarde le trend général, c'est pas les dépenses qui augmentent tellement, c'est les recettes qui diminuent. Et puis ça dépend aussi du mode de financement. Au sortir de la guerre, on ne passait pas par les marchés financiers pour financer la dette. On passait par le Trésor, on passait par la Banque centrale. Donc ça aussi, c'est pas la même dette.
Et enfin, pour terminer, on revient un peu, mais là on précise, puisqu'on vise un secteur particulier, le secteur de l'hôtellerie-restauration, négociations salariales qui reprennent le 16 décembre sous l'œil du gouvernement, qui réclame des efforts pour enrayer la pénurie de personnel. Alors, il y a des multiples reportages quand on regarde la télévision, notamment dans les stations de ski, où on nous dit, on trouve personne, on peut pas les employer, déjà il faut les loger, alors ils se débrouillent à peu près pour les loger, mais ça c'est pareil pour les saisonniers en été, notamment en Corse où j'avais été un peu confronté à ce problème. Et les représentants des salariés aujourd'hui sont quand même un peu en position de force, le patronat somme la puissance publique de lui foutre la paix, de ne pas interférer, surtout que l'État n'intervienne pas, on va en faire notre affaire. L'œuvre est grave et la pénurie de main d'œuvre est alarmante dans ce secteur, et c'est un constat partagé par les syndicats de patrons et de salariés du secteur des cafés, hôtels, restaurants. Et pour le moment, c'est le seul point sur lequel ils sont d'accord. Il y a un problème. Mais comment on va le résoudre ? On ne sait pas encore.
On ne sait pas encore. Il faut favoriser les échanges entre les différentes parties prenantes pour qu'elles arrivent à trouver un compromis et une solution.
Et vous avez cité l'Allemagne tout à l'heure, et c'est vrai qu'en Allemagne, on discute, c'est vrai qu'on échange, qu'on aboutit. Même sur le plan politique, on le voit avec la nouvelle coalition, on sait parler, on sait faire des consensus, et on sait avancer. Alors qu'en France, on sait s'invectiver, mais ça ne va pas au-delà, peut-être qu'il faut regarder un peu ce que font nos amis de l'autre côté du Rhin.
D'autant qu'en Allemagne, les salariés participent au conseil d'administration des entreprises.
Absolument, et ce serait... ça pourrait arriver en France, mais j'ai entendu en venant qu'on allait mettre quelques femmes quand même à la direction des entreprises, alors peut-être que les choses vont évoluer. Alors il y en a un qui l'avait dit, il l'a répété, hein, c'était pendant sa campagne, mon ennemi c'est la finance. Bon après il a oublié, mais bon quand même, donc finance, si on parlait finance... Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Anne, sur la finance ?
Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler finance, puisqu'on nous rebat les oreilles sur la finance, sur l'emprise, le pouvoir de la finance aujourd'hui dans nos économies. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il faut bien avoir en tête que le capitalisme a connu un important tournant à partir des années 1970-1980. Et on est passé d'un capitalisme fordiste, on pourrait dire, ou contractuel, à un capitalisme financiarisé.
Je lève le doigt comme à l'école. Fordiste, un capitalisme fordiste, traduction.
Alors, traduction. Qu'est-ce qu'on avait après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'aux années 70 ? Donc le capitalisme fonctionnait sur un compromis, une négociation collective importante, des modèles de protection sociale, une régulation stricte de la finance, un système monétaire international, le système de Bretton Woods, on pourra en parler peut-être plus tard, qui autorisait une autonomie des politiques monétaires nationales dans le cadre de taux de change fixes et ajustables, et un compromis qui consistait dans le partage de la valeur ajoutée à faire profiter les salariés des gains de productivité. C'est ça qu'on peut appeler le capitalisme fordiste ou contractuel. Et à partir des années 60-70, les États, les organisations internationales, conseillées par les économistes, ont développé des politiques de dérégulation de la finance et de libéralisation des économies.
Alors, si je vous entends bien, les économistes sont des gens dangereux, non ?
Oui, certains, pas tous. Il faut tous les écouter pour pas qu'ils soient dangereux. Il faut écouter toutes les voix, VOIE, VOIX, des économistes et ensuite trancher politiquement.
Alors, on va fixer les idées, Anne, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut nous donner quelques dates et évolutions importantes pour qu'on se repère ?
Alors, une date importante, c'est 1971, la fin des accords de Bretton Woods qui avaient été signés en 1944. Ce sont des accords mondiaux qui portent sur les taux de change et qui consistent à fixer toutes les monnaies sur le dollar, et le dollar, en contrepartie, était échangeable en or.
Pourquoi, je vous interromps, mais pourquoi sur le dollar ? Parce qu'à l'époque, c'était le pays dominant, parce qu'on aligne toujours sur le dollar, mais pourquoi le dollar ? Ça aurait pu être le marque, le franc à l'époque ou...
Parce que les négociations ont abouti sur le dollar et que les Américains ont réussi à avancer suffisamment d'arguments pour que ce soit ancré sur leur monnaie. C'est eux qui ont prêté aussi les plans Marshall après la Seconde Guerre mondiale, par
donc,
exemple.
Donc, qui paye commande.
Un peu, voilà. Et ce système, donc, il explose en 1971 pour des raisons diverses et variées, notamment la guerre du Vietnam, par exemple. Donc, quand ce système explose, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de taux de change fixe. Tous les taux de change deviennent fluctuants. Ou, si je le dis en d'autres termes, on peut spéculer sur les monnaies. Acheter et vendre des monnaies sur le marché monétaire ou sur le marché d'échange. Donc les monnaies deviennent des marchandises sur lesquelles on peut spéculer. Et inévitablement, il va se produire des crises. Notamment, on va avoir la faillite d'une banque allemande, Erstat, et d'une banque américaine, la Franklin National Bank, en 1974. Donc on a déjà ce point qui est extrêmement important, les monnaies deviennent des marchandises sur lesquelles on peut spéculer.
Ça veut dire que ce qui était un outil change de nature.
En quelque sorte, oui. Oui, tout à fait. La monnaie, on avait mis des taux de change fixes pour qu'il y ait moins de risques sur les échanges commerciaux, mais à partir du moment où les taux de change fluctuent, les risques deviennent plus élevés.
C'est la jungle.
Et quand il y a risque... Eh bien, il y a spéculation, puisque les spéculateurs sont des agents absolument indispensables. Ce sont les agents en économie qui acceptent de prendre les risques. et de se faire payer pour ça. Mais ensuite, le problème, c'est quand la spéculation explose, devient trop importante. Et là, on aboutit à des bulles spéculatives, des crises, etc.
Surtout quand, peut-être comme en France, mais vous allez nous en parler, on a des banques qui sont à la fois des banques de dépôt et des banques qui jouent la spéculation et que l'on a bien défendu à l'époque lorsque quelqu'un avait dit ben, il faut séparer parce que ça devient beaucoup trop dangereux. Oui. Et on a gardé toujours ce système-là.
Alors, les banques universelles, elles avaient été interdites aux États-Unis après la crise de 1929, donc dans les années 30. Elles avaient été interdites en France après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était cette idée de séparer les banques pour que les banques ne puissent pas utiliser l'argent des déposants pour spéculer. Et ces systèmes-là, on va les assouplir à partir des années 60, 66, 67 en France et les supprimer dans les années 80, en 1984 en France. Donc on va permettre la création de banques universelles. Aux États-Unis, hein, pour donner un autre état, il va y avoir assouplissement en 1980 et abrogation en 1999, donc sous le gouvernement Bill Clinton. Donc ces banques vont devenir universelles et des acteurs avec un pouvoir beaucoup plus important.
Ce qui fait qu'à la limite, ces banques prennent leurs clients en otage s'il leur arrive quelque chose. Et si c'est le cas, on va voir monsieur l'État ou le gouvernement, on dit renflouez-moi parce que si vous ne me renflouez pas, ça va exploser, ça va péter, c'est ça?
C'est ça, et c'est ce qui s'est produit en 2009, lorsque les États ont renfloué les banques, parce que ces banques sont peu nombreuses, une vingtaine, une trentaine dans le monde, et donc s'il y en a une qui fait faillite, elle entraîne tout le système avec elle, le système bancaire, mais aussi le système économique dans son ensemble.
Et quand en France, on a permis aux banques universelles de se lancer, rappelez-moi, c'était les socialistes qui étaient au pouvoir, non?
Eh bien oui, Jacques Delors, ministre de l'économie oui. et des finances, gouvernement Pierre Mauroy.
Bon, mais les socialistes ne sont pas de gauche, je pense. Enfin, c'est un problème dont nous débattrons dans l'émission « Ça va mieux » qu'est l'émission politique avec mes chroniqueurs. Pardon, ouais. Anne, cette interruption.
Alors, un autre mouvement important aussi dans la finance, c'est qu'à partir des années 1980, on a titrisé les dettes d'État. C'est-à-dire qu'on a transformé les dettes en titres financiers. Et l'idée, c'était que l'État devait trouver des financements, non pas en passant par le Trésor, comme il faisait, ou en empruntant à la Banque de France, mais en vendant des titres financiers sur le marché financier. C'est-à-dire que l'État doit être un acteur comme les autres. Il doit donc aller sur les marchés financiers. Et si ces politiques économiques ne sont pas suffisamment vertueuses, eh bien, il va devoir subir des taux d'intérêt élevés, plus élevés. Le marché va pouvoir le sanctionner.
Et donc, les dettes explosent.
Et donc, les dettes explosent à partir des années 80. Les dettes explosent alors que les dépenses n'explosent pas.
Et alors, en Europe, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, mais chez nous, un peu.
Alors en Europe, quelques dates hein, clés. En 1986, on va signer l'acte unique, c'est-à-dire le traité qui institue un marché unique. Et un marché, pour la majorité des économistes, c'est un lieu où la concurrence doit s'approcher le plus possible d'une concurrence parfaite. Et pour qu'on ait une concurrence, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une libre circulation des biens et des services, des personnes et des capitaux. Donc à partir de l'acte unique, les capitaux circulent librement en Europe. Mais quand je dis les capitaux circulent librement, ils circulent à la vitesse d'un clic informatique. Ce n'est pas comme les personnes qui doivent présenter des passeports, des passes, etc.
C'est-à-dire qu'on n'arrive plus du tout à maîtriser. Enfin,
donc on ne peut plus maîtriser. Et comme en plus en Europe, la solidarité entre les États pour les dettes est très faible, voire nulle, eh bien, on va avoir une spéculation sur les monnaies monétaires qui va commencer à la fin des années 80. Le système monétaire européen va exploser. Donc, on a aussi cette date qui est importante. Si je continue sur les événements importants, on a aussi toute la politique de plan structurel du FMI, du Fonds monétaire international, donc qui, chaque fois qu'il prête aux États dans les années 80, et encore aujourd'hui, on peut le dire, va demander à ces États de libéraliser leur économie. Donc là aussi, c'est l'idée que si on dérégule, si on augmente la concurrence, eh bien les capitaux iront vers ces pays en voie de développement parce qu'il y a des forts potentiels. Et c'est vrai que les capitaux vont vers ces pays, mais ils ressortent, ils rentrent, ils ressortent. En fin de compte, ils vont déstabiliser ces pays. Et pour maintenir les capitaux sur leur territoire, eh bien, les pays en question vont devoir augmenter les taux d'intérêt, par exemple, ce qui va pénaliser, bien sûr, les petites entreprises, les moyennes entreprises qui, elles, n'ont accès qu'au crédit pour se financer.
Qui c'est qui a inventé ce système qui est en train de nous broyer? C'est quand même spécial, on est un peu basochiste, non?
Non, on croit au marché. On croit au marché, on croit que le marché a.
Qui c'est qui y croit encore? Pas tout le monde.
La majorité des économistes croient au marché encore aujourd'hui. Hein. Quand vous regardez le prix Nobel 2013, c'est-à-dire en pleine crise quand même, hein, Eugène Fama, c'est le pape de l'équilibre du marché financier.
C'est un peu atterrant. Enfin, il y a des économistes qui sont atterrés, nous le savons.
Oui, il y a des économistes qui sont atterrés, j'en fais partie.
Dont vous êtes, je le sais.
Mais oui, c'est atterrant, voilà, on peut le dire comme ça. Mais y a, cette croyance, elle perdure encore aujourd'hui. Hein. Alors, une date aussi... Un moment aussi important dans ces années 70-80, c'est que c'est l'époque où on va créer et développer les marchés de produits dérivés, c'est-à-dire les marchés de produits financiers ou de produits de couverture. Donc c'est le début des années 70 aux États-Unis, 1982 à Londres et 1986 à Paris.
Un marché de couverture, c'est un joli nom, mais comment dire à Toulouse, qu'est-ce que c'est, le marché de couverture?
Alors en fait, le marché des produits dérivés ou le marché de produits financiers, c'est un marché qui a été inventé, qui a été créé pour que les agents économiques qui produisent des biens et des services puissent se protéger contre le risque. Je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Si vous prenez une compagnie aérienne aujourd'hui, hein, par exemple, donc aujourd'hui en décembre, je ne sais plus exactement quel jour nous sommes, aujourd'hui, elle va vendre des billets d'avion pour cet été, pour les vacances, mais elle ne connaît pas le prix du kérosène au mois d'août. Elle vend les billets aujourd'hui, elle ne connaît pas le prix du kérosène au mois d'août. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter un produit de couverture, un produit dérivé, pour se couvrir contre ce risque. C'est-à-dire qu'elle va acheter dès aujourd'hui le nombre de tonnes de kérosène dont elle a besoin au mois d'août à un prix qui est fixé aujourd'hui.
Donc elle sait où elle va, ce qui va quand même renchérir le coût, puisqu'il va falloir stocker, faire l'avance de trésorerie, stocker.
Non, on ne stocke pas le kérosène. Elle va signer un contrat où elle, avec un spéculateur. Avec un...
Donc qui va lui garantir un
qui
prix.
Va lui garantir au mois d'août, je vous vends tant de kérosène à tel prix. Voilà. Alors après, on peut faire des contrats plus nuancés. Hein. On peut faire des options, par exemple. Donc, je vous vends le kérosène à tel prix, mais s'il est meilleur marché sur le marché, vous pouvez aller sur le marché. Bon, après, il y a des... Mais l'idée des marchés de couverture, c'est ça. C'est développer ces produits qui vont permettre de protéger contre le risque.
Il y a quand même quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd dans tout marché.
Ah bien, c'est-à-dire que, bien sûr, l'agent, enfin, l'entreprise qui veut se protéger contre le risque, elle va payer ce service. Et le spéculateur, lui, il va accepter de prendre ce risque. Donc, soit il perd, soit il gagne. Mais il va se faire payer pour prendre ce risque.
Oui, il faut bien que quelqu'un, de toute façon, le prenne et c'est qu'il ça. En soit rémunéré, sauf s'il fait un mauvais calcul, là, c'est pour lui.
C'est pour lui, mais en même temps, c'est son métier de faire des calculs et de se faire payer correctement pour assumer ce risque. Alors, le problème qu'on va avoir, donc ce sont des investisseurs institutionnels, hein, ces acteurs qui vont prendre le risque et qui vont prendre un rôle extrêmement important en économie. Le problème, c'est que plus il y a de risques, plus il y a d'argent à faire. Et donc, on va avoir des entreprises qui normalement produisent des biens et des services qui vont s'engager dans la spéculation. Donc, ils vont développer en leur sein des départements financiers qui vont eux aussi spéculer. On l'a dans beaucoup d'entreprises, enfin les plus grosses entreprises. C'est pas la
oui, on a vu quelques personnes qui se sont un peu égarées, quelques très jolis clashs aussi.
Oui, voilà, on a vu quelques très jolis clashs. Et ces marchés, ils vont avoir une particularité, c'est qu'ils vont globaliser la finance au niveau mondial à partir des années 90, hein, puisqu'aujourd'hui, on a une finance mondiale et globale, puisqu'elle fonctionne 24 heures sur 24. Il y a toujours une bourse ouverte, un marché ouvert sur notre planète. Et donc, ces produits financiers qui vont se développer d'une façon extrêmement importante, hein, vertigineuse à partir des années 80. Donc tout le monde va s'engouffrer là-dedans, les entreprises productrices, etc. Et on va aussi financiariser certains secteurs qui ne l'étaient pas. En France, par exemple, ou dans les pays européens, c'est la financiarisation des pensions de retraite. Ça aussi, ça a été une étape importante dans la financiarisation des économies.
Donc, qui fait qu'on transfère les risques vers le monde du travail, comme vous me l'avez expliqué. Avant de rentrer sur les retraites qui nous passionnent à tous, parce que finalement, il y en a qui y sont et puis il y en a qui vont y être, d'autres, à un moment ou un autre, ça intéresse tout le monde. Vous voulez pas qu'on fasse une première pause musicale pour laisser souffler nos auditeurs, pour qu'ils se mettent bien ces problèmes financiers en tête. Alors, c'est vous qui avez choisi la première. Dites-nous ce que vous avez choisi.
Alors, moi, j'ai choisi la messe du CAC 40, chantée par Bernard Maris. Alors, c'est extrêmement humoristique. Et puis, la voix de Bernard Maris, c'est toujours sympa de l'entendre.
Voilà, nous aimons bien tonton oncle Bernard. Hein, c'était enfin. Ça.
Alstom, plus 3,55. ArcelorMittal, moins 0,32. AXA.
Aujourd'hui, le CAC 40 est en hausse et le Nasdaq en légère baisse.
Crédit agricole, moins 0,29. Danone.
À Tokyo, on assiste à un rebond technique et à Londres, les boursiers prennent leurs bénéfices. À Francfort, les marchés sont nerveux. Bouygues Télécom baisse très légèrement.
Moins 4,59. American Express, moins 20.
Total reste égal à Total, mais on attend les chiffres du chômage américain.
Charlie Hebdo, plus 57,3. Abbas.
Hélas, la Société Générale affiche de lourdes pertes et la tendance est baissière.
Plus 12,92. Natixis, moins 217,3.
Le FTSE à Londres est dans le rouge, mais le CAC se reprend en fin de séance.
Moins 57,6. Sodexo, plus 17,4.
Car le CAC est notre seigneur et maître. Tous les jours, nous chantons ses louanges.
Thalès, plus 3,72. Valeo, plus 4,62.
En lui, nous croyons, car il crée pour nous des emplois.
UMP,
et nous aimons l'emploi. Alléluia.
Voilà, Bernard Maris, dont nous avons entendu la voix avec émotion et plaisir, un de nos meilleurs économistes que nous lisions toujours avec beaucoup d'intérêt. Alors, on avait terminé, avant d'écouter Bernard, sur les pensions de retraite. On sait ce qui est la réforme qui avait été initiée, qui a fait que la France s'est profondément divisée, tentée par le président Macron. On a parlé de différents systèmes, on finissait d'ailleurs par ne plus savoir de quoi on parlait. Puis hier soir, j'ai cru lire que M. Macron avait précisé sa pensée, il a fallu un peu de temps, mais pour trois systèmes, alors on ne sait plus du tout où on en est. Démystifiez-nous cela, Anne, s'il vous plaît.
Alors, ça démarre bien avant le gouvernement de Emmanuel Macron. Hein. Donc, il existe deux grands type de système de retraite, le système par répartition, qui est encore le système majoritaire en France, et le système par capitalisation, notamment dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis. Alors, dans un système par répartition, la génération active paie pour la génération qui est à la retraite au même moment. C'est une répartition intergénérationnelle, donc organisée par une autorité publique. Donc, il n'y a pas besoin de gérer le risque lié au temps entre l'opération de prélèvement et l'opération de versement de pension, puisque ces deux opérations sont simultanées. Dans le système par capitalisation, c'est la génération active qui cotise pour sa propre retraite auprès de fonds de pension, qui verse ensuite la pension lorsque le salarié arrive à la retraite. C'est une organisation privée, en général, de la retraite. Alors là, il y a un risque, hein, puisque les fonds de pension vont devoir placer l'épargne des salariés et les cotisations des entreprises sur les marchés financiers pendant toute la durée du travail du salarié, donc pendant plusieurs dizaines d'années. Et ces fonds de pension, donc qui sont des investisseurs institutionnels, vont investir dans les entreprises en prenant part au capital sous forme d'actions. Donc cette fois-ci, il va falloir gérer le risque. Et du coup, il y a deux types de systèmes par capitalisation. Il y a des fonds de pension à prestations définies, donc c'est-à-dire que vous connaissez par avance le montant de votre pension en fonction des versements que vous avez faits, et les fonds de pension à contribution définie, c'est-à-dire que votre niveau de pension dépendra de la situation du marché financier lorsque vous prendrez votre retraite et pendant toute la durée de votre travail.
Un pari.
Ce sont des marchés financiers, donc c'est un pari en quelque sorte, oui. Alors, il y a eu toute une série de lois, non seulement en France qui ont favorisé le système par capitalisation pour les développer, mais aussi aux États-Unis ou en France qui ont favorisé les fonds de pension à contribution définie par rapport aux fonds de pension à prestation définie. Et là, l'argument, c'est encore une fois le marché. C'est encore une fois de dire que plus ces fonds de pension seront en concurrence, plus ils seront efficaces. Donc ces fonds de pension à contribution définie, pour attirer les clients, ils vont devoir afficher des taux de rendement importants. Ils vont devoir dire, regardez, venez mettre vos cotisations chez nous. Nous, on verse du 5%, du 10%, etc.
Et c'est là qu'arrive dans les années 80-90, c'est ça, la financiarisation des entreprises. Mais ça veut dire quoi exactement? Comment il faut le comprendre, ce terme?
Alors, là aussi, c'est une grande, cette financiarisation du capitalisme, elle va bien sûr impacter aussi les entreprises et la façon d'appréhender les entreprises. Alors, à partir des années 80-90, on va appliquer une théorie économique qui s'appelle la théorie de l'agence ou la corporate governance ou la théorie des contrats, bon, peu importe. Alors, cette théorie conçoit l'entreprise non pas comme une communauté d'acteurs qui ont des objectifs partagés, donc un processus collectif de création, mais comme une coalition de groupes d'individus, d'agents, alors principalement des actionnaires, des salariés et des dirigeants, qui ont des intérêts différents, voire antagonistes. Et donc dans ces années, donc il faut avoir à l'esprit hein, qu'on veut développer la finance aussi, parce que c'est par la finance qu'on finance l'économie. Et donc, on va dire, pour financer au mieux les entreprises, il faut privilégier le droit des actionnaires. Et on va considérer que les actionnaires sont les véritables propriétaires de l'entreprise. Ça, on pourra en rediscuter.
Oui, c'est quelque chose d'intéressant, mais dans une autre fois.
Dans une autre fois. Donc, il faut privilégier les actionnaires et donc faire épouser les objectifs de tous les acteurs. Il va falloir leur faire épouser les objectifs des actionnaires. Donc que les salariés, que les managers aient aussi aient les mêmes intérêts que les actionnaires.
Ce qui était très théorique, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes des uns et des autres.
Non, puisque pour les actionnaires, l'intérêt, c'est la valorisation de l'action. Pour les travailleurs et pour les managers, il peut y avoir tout un ensemble d'intérêts, hein, la gratification du travail, etc. Mais ce qu'on va retenir chez les économistes, c'est que les intérêts des salariés, c'est de gagner le plus possible en faisant le moins possible. C'est une définition un peu limitée oui, des salariés, mais c'est comme ça qu'on les voit. Et les managers, ce sera pareil. Gagner le plus possible en faisant le moins possible. Donc c'est ça la théorie de l'agence, hein, que je synthétise rapidement, mais c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir trouver ce qu'on appelle des incitations. Alors ça en économie, on adore les incitations pour aligner tous les intérêts. Comment on aligne les intérêts des managers, des dirigeants sur les intérêts des actionnaires? Une façon facile, c'est de les rendre actionnaires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on va les payer sous forme de stock options, par exemple.
Hein. Qui sont réservés quand même à certaines catégories, les stock options.
Oui, alors là, bien sûr, je parle des grosses entreprises où il y a de l'actionnariat. Hein. Je ne parle pas des petites entreprises, des moyennes entreprises, etc. Donc, à partir du moment où ces dirigeants vont devenir des actionnaires, eh bien, eux aussi vont avoir comme intérêt la valorisation actionnariale. Et pour les salariés, alors parfois, on verse une partie de leur salaire sous forme d'action, mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer exactement, enfin, on va essayer de mesurer ce qu'ils amènent à l'entreprise en termes de travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'apporte leur travail ? Avant les années 80, on ne se posait pas cette question-là, parce qu'on se disait, dans un travail collectif, on ne peut pas séparer le travail d'un individu. Et là, on va considérer que oui, on peut mesurer ce qu'on appelle en économie la productivité marginale d'un individu. Donc là, vous voyez que quand on met en place cette chose-là, bon, bien sûr, on financiarise les stratégies des entreprises, mais aussi on va considérer que les salaires, ce sont des coûts. Ce sont des coûts extrêmement importants. On va considérer aussi que les relations entre actionnaires et dirigeants ont des coûts, bon, etc. Donc on a de cette façon-là une financiarisation des entreprises. Et cette, par exemple, ce que tu as soulevé là dans les brèves tout à l'heure, peut-être que cette financiarisation n'est pas complètement étrangère à ce qui se passe dans les relations de travail aujourd'hui. Mais bon, on reparlera peut-être plus longuement des entreprises une autre fois.
Où en est aujourd'hui, alors, avec tous ces processus, ces lois, ces règles, ça paraît quand même très, très obscur, très opaque. Je parlais de jungle tout à l'heure, je crois que j'avais lancé le mot, c'est pas un peu le cas, non ?
Oui, c'est le cas, et puis on constate une disproportion de la finance dans l'économie, donc un pouvoir exorbitant de la finance et des acteurs de la finance, notamment les banques. On a parlé tout à l'heure du refinancement des banques. C'est-à-dire que même si elles ont une mauvaise gestion, même si elles spéculent trop, etc., eh bien, on va les refinancer. Donc, au final, on a une économie qui est soumise à la finance et des individus, c'est-à-dire des êtres humains, qui sont au service de l'économie et de la finance. Alors, si on regarde les chiffres, mais rapidement, parce que moi, les chiffres, on peut leur faire dire un peu tout et n'importe quoi, mais bon, si on regarde l'ensemble de tous les échanges économiques, ou dit autrement, le total de tous les échanges faits contre de la monnaie, l'économie réelle dans le monde ne représente que 2%, voire moins, de l'économie totale. L'économie réelle, c'est-à-dire l'échange de biens et de services.
C'est dérisoire.
La finance, c'est 98%. Voilà,
hein. Et inquiétant.
C'est aussi inquiétant. Alors, il y a d'autres mesures. Si on mesure par rapport au PIB, la finance pèse 12 fois plus que l'économie réelle. Alors, c'est inquiétant parce que lorsque, bien sûr, il se passe quelque chose dans le secteur financier, ça va avoir des répercussions partout. Et on l'a vu avec la crise des subprimes. Personne n'est épargné. Ça va se propager comme un effet domino. Et cela provient du poids de la finance, mais aussi de son fonctionnement, hein, puisque les entreprises ont des stratégies financiarisées, les pensions de retraite sont financiarisées, etc. etc. Donc, sur ces marchés, les banques vont titriser les risques, hein, c'est-à-dire qu'elles transforment des risques en titres financiers. Ensuite, elle fait des cocktails de ces titres qu'elle va faire en titre. Bon. Et cette titrisation en chaîne va diffuser les risques sur le marché. Qui porte le risque ?
Ça, c'est un peu une espèce de mistigris, quoi, au final. Voilà. On ne sait plus qui a le...
Une patate chaude, voilà. Un mistigris. Et quand on demandait à la Banque des règlements internationaux en 2009 où sont les risques, elle répondait « nous ne savons pas ». On attend de voir le premier qui va tomber. Donc, les risques se diffusent dans toute l'économie et lors des crises, tout le monde est impacté. Et c'est bien sûr aggravé par le système des banques universelles. Donc, ces risques, ils ont été transférés aussi sur le monde du travail, puisque le monde du travail va être en quelque sorte la variable d'ajustement. Hein. Par exemple, sur les marchés boursiers, la valeur des actions, il y a une convention qui dit que si vous voulez augmenter la valeur de votre action, il faut baisser la masse salariale, hein, c'est-à-dire soit les salaires, soit le nombre de salariés.
Donc la variable d'ajustement, c'est ça.
C'est la variable d'ajustement. donc au niveau des salaires, quand les gens sont actifs, mais aussi, bien sûr, au niveau des retraites. Donc, on a les risques des marchés financiers qui portent sur le marché du travail, les bulles spéculatives qui se multiplient à un rythme extrêmement accru. Et on l'a déjà vu plusieurs fois, on va le voir encore, je pense, à l'avenir.
Bon, Anne, il nous faut conclure sur ce sujet. Vous avez écrit une situation qui est on ne peut plus inquiétante. Comment on peut faire face à ça? Comment on peut s'en sortir?
Alors moi, je dis à mes étudiants, si vous avez envie de vous faire peur, n'allez pas voir un film d'horreur, écoutez un film d'économie sur la finance.
Oui, ça me semble tout à fait ça.
Non, mais bien sûr qu'on peut s'en sortir. Il faut trouver les moyens de désarmer ce marché financier. Et il y a toute une série de mesures que les autorités publiques pourraient prendre. On peut interdire, par exemple, certaines opérations. Les marchés financiers sont des marchés particuliers où on peut vendre ce que l'on n'a pas, par exemple. Hein. Ça s'appelle des ventes à découvert. Et ça, c'est des pratiques qui font exploser aussi la spéculation. On peut supprimer les banques universelles, on peut réguler l'activité des traders, lutter contre les paradis fiscaux, socialiser l'activité des banques, créer une monnaie commune pour l'économie réelle, etc. Définanciariser l'entreprise.
Là, on n'est plus dans le film d'horreur, dans la science-fiction, non ?
Non, je pense que non. Et je pense qu'il va être intéressant, là, dans l'année qui vient, de regarder dans les programmes électoraux ce qui propose justement de désarmer ce marché financier.
Pour l'instant, il s'occupe d'autre chose. On parle de sécurité, on parle d'identité, on parle d'immigration, autrement dit de sujets qui n'ont pas d'existence réelle, si ce n'est dans l'esprit de certains.
Oui, mais les programmes commencent à sortir, on peut commencer à les trouver en ligne, et donc je pense qu'il va être intéressant de s'y pencher et de poser les questions aux politiques.
Bien, nous les poserons, mais Anne, arrivé à ce point de l'émission, il faut que je fasse un aveu. Je suis de droite.
Non, je n'y crois plus. Je ne simule plus. Je ne me mens même plus à moi-même. Depuis bientôt 4 ans que je suis président, je peux plus faire semblant. Ça me pose problème. Il faut que je vous confesse que toutes mes belles promesses, toutes mes belles idées, je m'en foutais. Il est temps maintenant de vous le dire franchement. Il faut que je vous avoue, ce n'est plus tabou. Je suis de droite, complètement de droite, à faire pâlir de jalousie Fillon, Copé, Wauquiez, Juppé et Sarkozy. Je suis de droite, parfaitement de droite. J'en fais voir de toutes les couleurs, au rouge, au vert et même au rose. Et tant pis si pour les frondeurs, je trahis la cause. Mon gouvernement file droit maintenant. Le capitaine s'appelle Manuel. Tel un Apollon, j'ai placé Macron en figure de proue. Oui, rien que pour vous et pour pas qu'on chavire, c'est super que Taubira quitte le navire. Je respire à mon équipage, j'envoie ce message, les vents soufflent fort. Toute barre à tribord, je suis de droite, complètement de droite. J'en ai déçu des gros balours, Hamon, Duflo, Philippe Etty et Montebourg.
Tu es de droite.
C'est ça. Je suis de droite. La déchéance, ils en rêvaient. Eh bien, c'est moi qui l'aurais fait, car j'ai le cœur complètement à droite. Je le chante et ça m'éclate. Je suis de droite.
Voilà, je suis de droite, c'était les Goguettes en trio, mais à quatre, je vous les fais entendre assez souvent, je ne les présente plus. Alors nous arrivons à notre avant-dernière rubrique. On parle souvent d'économie en Occitanie, mais on est en hiver, ça va être les vacances, donc il faut parler un peu de la montagne, mais nous avons aussi en Occitanie nos montagnes qui s'appellent les Pyrénées. Alors vous savez que les écosystèmes de montagne fournissent un apport qui est vital pour l'humanité, d'autant plus maintenant, puisque ces montagnes séquestrent le CO2 et que donc elles nous donnent de l'eau et de l'air propre et puis qu'elles régulent un peu les crues. Donc dans le monde entier, elles offrent de quoi subsister à plus de la moitié de l'humanité, c'est quand même pas rien. Et il y a, ben ça on n'a plus besoin de vous le dire, vous le savez, le dérèglement climatique qui lui est particulièrement prononcé quand on est en montagne. Le relief très développé des chaînes va favoriser l'existence de nombreux microclimats, des écosystèmes, des habitats pour différentes espèces dont un grand nombre ne vivent qu'en montagne. Et donc, les régions de haute altitude sont susceptibles de se réchauffer beaucoup plus rapidement que les plaines. Ça veut dire que, ben, peut-être un jour, le ski, ça va être compliqué. Ça l'est déjà dans certains endroits. Alors, on a observé un réchauffement de 0,57 degrés centigrades par décennie dans les Pyrénées, alors que ce taux n'est que de 0,18 centigrades dans les plaines françaises. Donc il est difficile de prédire avec beaucoup de précision les hausses de température en montagne, mais enfin on peut estimer que la température annuelle moyenne dans les Pyrénées a augmenté de 2 degrés depuis 70 contre 1,2 en plaine. Donc cette différence, ça c'est certain, ne fera que s'accentuer à l'avenir. Donc si vous partez à la montagne dans les vacances qui arrivent, profitez-en bien parce que peut-être un jour... Eh bien, on fera de la luge ou du ski sur l'herbe.
Oui.
Et que nous n'aurons plus de neige, sauf si notre conseil départemental, qui fut général, amène, comme il avait fait à Superbannière, la neige dans un hélicoptère.
Oui.
Mais bon, c'est une idée assez surprenante, mais ça s'est passé. Donc, le réchauffement climatique aura un effet extrêmement important, surtout sur nos loisirs, sur les vôtres, sur les économies locales, sur l'avenir de certaines stations qui sont lourdement endettées aujourd'hui, parce que les remontées mécaniques, ça coûte quand même très cher, et tout ce qu'il y a autour. Donc peut-être que demain, notre vie, nous l'aurons cherché, hein, puisque le CO2, c'est quand même nous qui le produisons, peut-être que demain, notre vie et nos loisirs seront notablement différents. Bon, on n'est pas optimiste hein, ce soir, s'il faut l'être, on arrive au fait. On va parler de conseils de lecture ou de conseils culturels, peu importe. Anne, qu'est-ce qu'on fait pendant ces vacances ?
Ah, moi, je choisis deux livres sur la finance.
Pour se faire peur, alors.
Un livre d'un économiste, François Morin, en 2011, « Un monde sans Wall Street ». Les marchés financiers ont beau déclencher des crises à répétition, peu d'experts et encore moins de gouvernements osent imaginer un monde sans la liberté et sans le pouvoir de ces marchés, un monde sans Wall Street. Pourtant, comme l'explique ici François Morin, un des meilleurs experts français des systèmes financiers, c'est le pas décisif qu'il faut franchir au plus vite pour éviter une nouvelle catastrophe. Donc, l'auteur va proposer un diagnostic et puis décrire un monde qu'on pourrait imaginer sans Wall Street. L'autre ouvrage, c'est un roman un peu ancien maintenant de Zola qui s'appelle « L'argent ». Donc, c'est le 18e volume des Rougon-Macquart. L'argent est le premier grand western financier des temps modernes. Bilan falsifié, connivence politique, fièvre spéculative, manipulation médiatique, rumeurs, scandales, coups de bourse et coups de Jarnac, lutte à mort entre les loups-cerviers de la finance qui déjà rôdaient chez Balzac.
Donc tout ça n'est pas nouveau donc, finalement.
C'est pas nouveau et c'est très bien écrit et Zola n'écrit pas de bêtises en économie.
C'est peut-être un excellent économiste. Maintenant, il est trop tard pour qu'il vienne faire l'émission avec nous.
Voilà.
Tiens, vous avez parlé de loups-cerviers de la finance. Qu'est-ce que c'est que des loups-cerviers ?
Ah, il y a un film sur ça, le loup de Wall Street, qui le montre bien aussi. Ce sont les requins de la finance, les traders, les... Voilà,
ils ont toujours des noms, des loups, des requins, des crocodiles, ils ne sont pas tous dans le même marigot. Enfin, c'est quand même pas des gens qu'on aime beaucoup. Ils ont toujours des sobriquets d'animaux enfin, qui ont une apparence toujours dangereuse, redoutable.
Oui, parce qu'ils participent aux crises qu'on voit se développer et donc aux souffrances d'une grande partie de la population.
Qu'est-ce qui les pousse, vous pensez, à se lancer dans ce genre de profession ? L'appât du gain ?
Freud aurait dit l'amour pathologique de l'argent, accumulé pour accumuler.
Oui, ce sont souvent des jeunes, mais ils sont un peu épuisés quand même au bout de quelques temps. Ils sont exploités, ils sont... J'imagine, hein, parce qu'ils doivent vivre quand même difficilement. Vous parliez tout à l'heure du clic. Et c'est vrai, d'un clic, on peut faire basculer des monceaux d'argent d'un côté de l'autre. Mais j'imagine aussi que c'est extrêmement stressant, parce qu'au moment où vous appuyez, puis il faut appuyer vite, parce que ce n'est pas vous qui appuyez, c'est un autre qui va appuyer, donc vous allez louper l'affaire. Ces gens sont en tension permanente.
Oui, ces gens sont en tension permanente. Il y a eu un scandale il y a quelques années, pas si longtemps que ça, moins d'une dizaine d'années à la City, où des étudiants en finance, il y a eu plusieurs étudiants qui ont eu de graves problèmes de santé, voire qui ont été complètement épuisés. Ça a été fatal pour certains d'entre eux.
Vous qui enseignez, qui avez donc ces étudiants, ils vous parlent de ça, ils vous disent qu'ils ont envie de faire ce métier, que c'est leur rêve, que... Enfin, quand ils vous écoutent, ils ne doivent pas penser que c'est le rêve quand même.
Alors, moi je n'ai pas d'étudiants en finance, je n'enseigne pas dans des circuits universitaires sur la finance, hein, voilà. Donc je n'ai pas ce type d'étudiants. Moi, j'ai des étudiants de sciences politiques, j'ai des étudiants qui font de l'histoire de la pensée économique, donc ils sont loin de tout ça. Après, est-ce que les étudiants sont absolument recherchent l'argent pour l'argent? Je ne pense pas, je pense qu'il y a de tout, voilà, il y a de tout.
Eh bien, écoutez, voilà, on va les laisser à ceux de tout. Alors donc, hein, Zola, l'argent, on le rappelle, le 18e volume des Rougon-Macquart, excusez-moi, et la description par Zola du culte de ce nouveau Vaudor, c'est ça ?
C'est ça.
Hein, la vie secrète de son temple, l'activité frévieuse de ses desservants, c'est vous qui l'avez écrit, hein, donc je vous cite. Voilà, mais c'est vrai qu'à l'heure de nos conflits planétaires, il faut revivre cette croisade, cette épopée de capital. Tout cela était de toute façon en germe. Ça veut dire quand même qu'on va toujours plus loin, toujours plus vite. Ça va s'arrêter un jour.
Oui, oui, bien sûr, ça va s'arrêter un jour, parce qu'aucun système n'est éternel. Aucun, y compris le capitalisme financiarisé, voire même le capitalisme. Mais ça, c'est le propre de l'évolution humaine. On était dans un système féodal, on est passé dans un système capitaliste, on passera dans un autre système après. La planète n'existe plus.
Ok, quelque chose de possible dont on reparlera dans l'émission Arcania, où l'on parle de l'avenir de notre planète. Alors moi, je vais vous... Peut-être un livre un peu plus souriant, « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mbougar Sarr, qui est le dernier prix Goncourt. Édité par Philippe Rey et Jim Sahan, qui est une maison d'édition, je crois, sénégalaise. Ils se sont mis à deux. Et cette histoire qui est extrêmement bien écrite, elle est agréable à lire, elle est pas... c'est assez facile à lire aussi. Il y a quand même du vocabulaire. Hein. Il y a beaucoup de vocabulaire, mais on est en pleine déperdition de vocabulaire, donc ça fait beaucoup de bien de lire ce type de livre. Et c'est l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais qui découvre à Paris un livre mythique qui avait paru en 1938, ça s'appelle « Le labyrinthe de l'inhumain ». Et puis l'auteur de ce labyrinthe de l'inhumain, on a perdu sa trace, on l'avait dit à l'époque, c'était un Rimbaud nègre, vous voyez, depuis le texte avait déclenché un scandale lors de sa parution, et notre héros, comme l'on dit autrefois, Diégane, s'engage, il est fasciné, il s'engage sur la piste de cet auteur mystérieux qui s'appelle Illiman. Ils vont se confronter, on va parler des grandes tragédies, on va parler du colonialisme, on va parler de la Shoah, on va voyager au Sénégal, en France, on va aller en Argentine. Et il est à la recherche de cet auteur, de la vérité de ce texte, et on se demande ce qu'il va trouver dans ce labyrinthe un peu touffu. Et on va suivre donc Diégane un peu partout, et c'est vrai que il y a une perpétuelle inventivité dans ce livre. C'est un roman assez étourdissant qui est dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore entre le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Et puis c'est surtout, et moi c'est ce qui m'a passionné, un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. Alors lisez, offrez « La plus secrète mémoire des hommes », notre dernier Goncourt. C'est un beau livre et je pense qu'on peut dire qu'on en ressort quand même un peu augmenté, N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous l'avez lu, peut-être.
Non, je ne l'ai pas encore lu.
Tant pis, il faut.
Mais je l'ai offert à mon frère avant.
Ah ben, vous aviez senti, regarde. Elle avait senti que c'était un... on ne lit pas toujours les Goncourt, mais c'est vrai que les deux derniers Goncourt nous ont donné, il faut le dire, du plaisir, parce que quand même, la lecture, c'est ça, hein, c'est du plaisir, du rêve, de l'évasion, et puis un peu apprendre, apprendre la vie. Anne, on va se séparer.
Oui.
Hein, puisque... Voilà, économie. Voilà pour cette année. On vous retrouvera avec grand plaisir en janvier. J'espère le foie pas trop engorgé. C'était Economica, une émission de Anisla et de Jacques Lavergne. Aux manettes, bien évidemment, nous avions Tiffon Lemaine que nous remercions. Et puis, bien sûr, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Economica. Bonne fête à tous, prenez soin de vous et surtout profitez. Bonne soirée.
Bonne soirée.